Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce journal présenté par Gisèle Cage. On commence tout de suite avec le grand titre RDC Rwanda, un pas décisif vers la paix durable. Sous la médiation américaine, les deux pays signent à Washington un cadre d'intégration économique pour transformer la paix en développement concret. Lubumbashi alerte sur la pollution acide des rivières. Deux ONG demandent une intervention urgente de l'État et l'entreprise minière CEDEM pour décontaminer le cours d'eau exposé à des risques sanitaires graves. Entretien exclusif, comprendre le financement des groupes armés en Ituri. Les substituts du procureur général près la cour militaire de l'Ituri, Ataba Bahati, décryptent les enjeux liés à la crypto-monnaie, aux échanges chiffrés et aux défis judiciaires dans la lutte contre le terrorisme. C'est une avancée majeure dans le processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Les deux pays viennent de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord signé en juin dernier sous médiation américaine. Ce vendredi 7 novembre à Washington, ils ont paraphé un cadre d'intégration économique régionale destiné à renforcer leur coopération et à transformer les acquis de la paix en développement concret. Cette signature est intervenue lors de la quatrième réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord, selon un communiqué du département d'État américain. Les détails avec Martial Papimukeba.
Le texte a été paraphé sous la supervision de la sous-secrétaire d'État et du conseiller pour l'Afrique des États-Unis. Ce cadre fixe les axes de coopération économique, de développement et d'investissement visant à transformer les bénéfices de la paix en avantages concrets pour les populations locales. Selon les communiqués, le comité a reconnu les retards accumulés dans la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et s'est engagé à redoubler d'efforts. Les participants ont convenu d'actions immédiates pour neutraliser les groupes armés de FDLR et ses alliés, avancer dans le désengagement des forces et la levée des mesures défensives par les Rwandais. Ils ont également souligné la nécessité de s'abstenir de toute action ou rhétorique hostile pouvant compromettre l'accord. Le Qatar a présenté l'état des négociations à Doha entre la RDC et l'AFC-M23, notamment sur les échanges de prisonniers, et le comité a salué la première convocation du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu le 5 novembre. Béni. Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Accord de paix RDC-Rwanda. Le président de la République a révélé ce vendredi devant la diaspora congolaise au Brésil en marge de la COP 30 que la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda est imminente. Issu de pourparlers de Washington, cet accord vise à mettre un terme aux conflits récurrents dans l'est du pays qui ont déjà coûté la vie à de nombreuses personnes. Écoutons Félix Tshisekedi dans cet extrait sélectionné et traduit par Jean Gando.
La joie que j'ai est de vous annoncer que les discussions dont vous avez entendu parler, qui se font à Washington et à Doha, vont bientôt prendre fin. Dans les prochains jours, les Américains, notamment la Maison Blanche, nous enverra officiellement les invitations pour mettre fin à ces discussions par la signature d'un accord de paix. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que nous n'avons pas commencé cette guerre, mais elle nous est imposée à cause des richesses que nous avons dans notre pays et qui servait plusieurs étrangers, mais aussi plusieurs de nos voisins pour qu'ils construisent leur pays au détriment de nos frères et de l'économie de notre pays. Mais nous nous sommes fortement battus pour mettre fin à ces souffrances. Nous arrivons à la fin pour que nous puissions cueillir le fruit, les fruits de la paix, une paix éternelle dans la République démocratique du Congo.
Autre sujet à suivre dans ce journal, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le consortium Mazingira pour tous et Resource Matters tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué reçu ce samedi par Radio Kapi, ces deux organisations interpellent l'entreprise minière Congo Dongfang Mining, CEDEM, ainsi que les autorités étatiques, les appelant à procéder sans délai à la décontamination des rivières polluées par des rejets acides. Ces substances issues du bassin des rétons de CEDEM se sont déversés dans l'environnement, exposant les populations locales à des graves risques sanitaires. Le point avec Paul Amunanga.
De la gouvernance à la négligence, Léo Katanga face à une urgence environnementale. C'est l'intitulé du communiqué de presse. Les consortiums Mazingira pour tous et Ressources Matters expriment leur profonde préoccupation suite à la contamination de la rivière Lubumbashi ayant tué des espèces aquatiques. Face à cette situation, les deux ONG demandent à l'entreprise Congo Dongfang Mining CEDEM qui est incriminée et aux institutions étatiques compétentes de prendre des mesures préventives urgentes pour la santé de la population affectée. Témoignage d'une habitante du quartier Kasapa.
On a libéré de l'eau pendant qu'il n'avait pas plu. C'était vraiment presque partout. On n'arrivait même pas à marcher. Nous nous sommes promenés dans l'eau. On a essayé de monter les habits, marcher pieds nus. Et vous allez même remarquer sur des chaussures où nous avons mis ces jours-là. Et après avoir marché dans cette eau-là, ça fait comme le sel au-dessus des chaussures. Et même sous les pieds, ça chatouille. Et puis ça crée des problèmes dans les orteils.
Pour rappel, le mardi 4 novembre dernier, un bassin de rétention des rejets miniers de l'entreprise CEDEM situé au quartier Kasapa à Lubumbashi a cédé, provoquant un déversement important des eaux contaminées à l'acide. Les deux ONG craignent que l'ingestion des eaux contaminées ne provoque des problèmes de santé sur la population. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Santé publique, le programme multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS et l'ONU SIDA recommande le déploiement d'équipes de dépistage dans les sites accueillants de déplacés afin d'évaluer la situation réelle et adapter la réponse sanitaire. Cette recommandation est issue d'une réunion tenue vendredi à Kisangani au cours de laquelle les deux organisations ont souligné que l'intégration du VIH dans les interventions humanitaires est désormais une priorité pour le service de santé spécialisé dans la province de la Tchopo. Les explications avec Jacques Moukonkole.
La saison des pluies qui a commencé depuis le mois d'octobre et se poursuivra jusqu'en décembre.
Face à la vulnérabilité des déplacés dans les sites d'accueil, la lutte contre le VIH-Sida doit être intensifiée, car, estime les services de santé, ces personnes sont exposées au risque de contamination. Pour Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS, elle compte élaborer un document de plaidoyer afin de mobiliser les fonds nécessaires pour mener cette lutte.
On va aider les acteurs sur terrain à réaliser certaines activités allant dans le sens de prévenir le VIH auprès des victimes de ces conflits, garantir la continuité des soins pour ceux qui ont déjà le VIH.
Benjamin Chizubu Mutombo, représentant du bureau de l'ONU Sida à l'est de la RDC, salue cette approche. Il garantit l'engagement de son organisme en vue de soutenir les efforts visant à éviter une propagation incontrôlée du virus.
C'est déjà un outil de plaidoyer qui pourra servir de base quand on va aller voir les partenaires pour leur demander leur appui pour venir résoudre les problèmes dont déplacés de guerre et de déplacés des conflits intercommunautaires.
La mobilisation des services spécialisés s'avère donc indispensable pour garantir une riposte efficace dans les zones sensibles, telles les sites des déplacés, estiment le PNLS et l'ONU SIDA. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, plusieurs couches de la population ont été sensibilisées à l'importance du nouveau vaccin contre le paludisme, désormais intégré au calendrier vaccinal national. Les communautés sont appelées à s'engager activement pour promouvoir ces vaccins qui visent à protéger les enfants contre une maladie devenue l'une des principales causes des mortalités. Florence Kizalunga nous en dit plus.
C'est dans la salle de réunion de la Cité du Fleuve que les professionnels des médias, le relais communautaire, le membre des associations, des confessions religieuses ainsi que certains cadres de la division provinciale de la santé ont eu des connaissances sur l'introduction de ces nouveaux vaccins. Le relais communautaire et les membres des associations s'engagent à intensifier cette sensibilisation. Solange Mirambo.
Nous allons intensifier la sensibilisation afin que tous les parents et les gardiens des enfants puissent adhérer au nouveau vaccin contre le paludisme.
Pareil pour les confessions religieuses. Abbé Bernard Kanvo Lumbulé.
Nous avons pris engagement de continuer à sensibiliser nos fidèles dans les différentes rencontres et surtout pendant les célébrations eucharistiques.
Vu l'importance de cette sensibilisation, les professionnels des médias promettent d'en parler dans leurs différents programmes. Gustave Bakuka.
Prenons cet engagement d'accompagner les professionnels de santé, les relais communautaires, les associations en leur accordant des espaces dans nos chaînes de radio afin qu'ils puissent pérenniser cette sensibilisation.
Pour les organisateurs, l'objectif est de susciter un engagement communautaire. Camille Wakansilembo.
Ils doivent transmettre les messages aux différents membres de la communauté pour pouvoir adhérer massivement à ces nouveaux vaccins de la lutte contre le paludisme.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Environnement à Goma, une dizaine d'acteurs de la société civile ont été sensibilisés ce vendredi au danger du saturnisme, une intoxication causée par le plomb. Cette séance d'information a été organisée par l'association Appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable AICED dans le cadre de la semaine mondiale de lutte contre cette pathologie célébrée du 19 au 25 octobre selon Faustin Nyeboné, directeur de l'AICED. Les particules de plomb sont omniprésentes dans l'environnement, notamment à travers la peinture, le sachet plastique et les carburants souvent mal manipulés. Les enfants sont les plus exposés à ces risques qui justifient l'urgence d'informer les acteurs locaux et de les inciter à passer à l'action, suivant ici les propos de Faustin Nyeboné.
Lorsqu'on met la peinture sur les murs, les particules en tombent, chaque fois les enfants vont inhaler. Lorsqu'on met la nourriture chaude dans tout ce qui est récipient en plastique, les plombs vont se retrouver dans la nourriture, ça va intoxiquer les consommateurs. Et même dans les carburants, on y met les plombs comme un antidétonant. Et lorsqu'on respire cette fumée-là liée à la combustion du carburant, on s'intoxique toujours, même par les voies respiratoires. Alors, y égard à ce problème-là, et sachant que les plombs attaquent tous les systèmes et appareils, ça attaque le système nerveux central, ça attaque le système cardiovasculaire, ça attaque l'appareil digestif, ils accroissent les risques du cancer des poumons, de l'estomac. Il fallait réfléchir avec les parties prenantes dans cet atelier où on avait trois objectifs. Il fallait renforcer les connaissances sur les différentes formes d'exposition exposition au plomb et réfléchir maintenant si les mécanismes de lutte contre l'exposition au plomb de façon locale.
Ituri, la situation humanitaire reste critique dans plusieurs sites de déplacés à Djougou. En cette période de pluie, des milliers de personnes passent leur nuit dans des abris délabrés, rongés par l'usure et les intempéries. Et cette précarité expose les familles, notamment les enfants, à des graves maladies comme la pneumonie. Face à cette urgence, les acteurs de la société civile et les gestionnaires des sites lancent un appel pressant à l'intervention des autorités et des partenaires humanitaires. Les précisions d'Isaac Remoyope.
La saison des pluies qui a commencé depuis le mois d'octobre et se poursuivra jusqu'en décembre est devenue un véritable calvaire pour la majorité des déplacés en Ituri. Ces familles passent leur nuit debout sous la pluie qui s'abat presque chaque jour. Leurs abris en bâche, installés depuis plus de 3 ans, sont aujourd'hui isés, perméables et à moitié découverts. Conséquence, les déplacés sont exposés au soleil, au vent, au froid et aux fortes pluies. Aussi Détché, par exemple, un vent violent accompagné d'une pluie torrentielle a détruit plusieurs abris, obligeant les sinistrés à passer la nuit à la Belle Étoile, alerte la société civile locale. Son président Charité Banza lance un appel à l'aide humanitaire urgente pour sauver des vies, notamment celles des enfants, nombrés à souffrir de pneumonie à cause du froid.
Pour le moment, même si la pluie tombe, les déplacés se tiennent debout dans leurs petits abris. Des enfants, des femmes à cette doc, nous avons des larmes aussi aux yeux. Nous demandons également une aide urgente pour que ces gens-là soient aussi protégés.
Le même scénario est observé dans d'autres sites de déplacés, notamment Aro, Bayo, Jina et Loda. Pour rappel, la province de l'Ituri compte près d'1,5 million de déplacés répartis dans plus de 60 sites et familles d'accueil. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Maniema, depuis hier, les activités socio-économiques tournent au ralenti dans le centre commercial de Salamabila. Cette tension fait suite à l'assassinat d'un jeune commerçant ambulant dans les territoires voisins des Chabunda au sud Kivu par un général autoproclamé d'un groupe Wazalendo. En signe de solidarité, les commerçants ambulants Bashibavu exerçant à Masalamabila ont fermé leurs magasins, boutiques et kiosques, plongeant les centres des négoces dans une quasi-paralysie. Jean Kassami nous en dit plus.
Le marché central au centre des négoces de Salamabila est quasiment vide aujourd'hui et c'est depuis hier. Tous les commerçants Bashibahavu dont les produits en provenance de Bukavu inondent le marché ont interrompu le commerce. Ils décrètent 3 jours sans travail en mémoire de leurs membres assassinés au courant de la semaine dans le groupement de Batale, village Mulongo, dans les territoires de Chabunda.
Il y a interruption des activités et nous qui vendons toujours les vivres et les non-vivres, nous demandons à la population d'être toujours patient jusqu'à ce que on puisse terminer ces deuils. Ceux qui auront besoin d'acheter quelque chose, ça sera trop difficile parce que nous sommes toujours rwandais en train de pleurer notre frère tué la fois passée.
À travers ces gestes, ces opérateurs économiques entendent pousser les décideurs à engager des poursuites judiciaires contre les bourreaux. Certains habitants redoutent une carence en produits de première nécessité. En effet, l'économie locale repose sur le commerce exercé par les commerçants ambulants Bashi Bahavu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Mongala, l'administrateur du territoire des Bongandanga, séjourne depuis 3 jours à Kinshasa. Félix Bamba affirme être venu dans la capitale pour plaider en faveur de la relance des travaux de lutte contre les érosions qui ont gravement endommagé la route nationale numéro 6, aujourd'hui coupée entre le port des Bongandanga et le bâtiment administratif. Selon lui, l'office de voirie et drainage OVD en charge des travaux ne dispose pas des engins adaptés pour réhabiliter ces tronçons stratégiques. Félix Bamba se veut tout de même rassurant et donne ici un signe d'espoir pour la reprise des travaux. Il est joint au téléphone par Askenzi Biatayoro.
Le démarche est simple. L'OVD est en train de travailler à Bongandanga. Et l'espace qu'ils doivent achever les travaux nécessite la présence des engins. Et ces engins-là doivent provenir de l'autre côté des rivières Lopori, à 7 km de Bongandanga centre, c'est-à-dire à Mondjolongo. Et traverser Mondjolongo, nous n'avons pas les bacs pour pouvoir traverser ces engins. Et on avait pris connaissance avec l'excellence Monsieur le vice-ministre du budget, Élisée Okumona Maposo, dont son bateau est en route pour Bongandanga, pour Mondjolongo, parce que les bateaux ont déjà quitté Kinshasa pour Mondjolongo. Lorsque les bateaux seraient à Mondjolongo, il va nous aider à traverser ces engins. Et c'est ce qui a ralenti un peu les travaux. Nous sommes à Kinshasa pour secouer certaines autorités et certaines personnes de bonne volonté pour que nous puissions avancer rapidement, parce que le mois de novembre ici, il pleut abondamment chez nous au Grand Équateur. Et lorsque les agents de l'OVD seraient à mesure d'avancer leurs travaux, il ne se posera pas un problème parce que ce sont les engins qui doivent booster ces travaux.
Actualité internationale.
Le gouvernement afghan a accusé samedi le Pakistan d'avoir fait échouer les négociations de paix tenues à Istanbul visant à consolider une trêve approuvée le 19 octobre à Doha. Malgré les tensions, les autorités talibanes espèrent que le cessez-le-feu tiendra. La rencontre organisée après une semaine d'affrontements meurtriers s'est déroulée dans une grande discrétion. Le Pakistan, par la voix de son ministre de l'Information, a évoqué un échec implicite appelant Kaboul à respecter ses engagements en matière de lutte contre les terrorisme. La trêve a été fragilisée jeudi par des tirs à Spin Boldak, ville frontalière ayant causé la mort de 5 civils. Chaque camp rejette la responsabilité sur l'autre. Kaboul affirme ne pas avoir riposté pour éviter de nouvelles pertes humaines. Islamabad accuse par ailleurs les talibans de bénéficier du soutien de l'Inde dans un contexte de rapprochement entre Kaboul et New Delhi.
L'invité.
À Bounia, le personnel judiciaire des parquets civils et militaires a clôturé jeudi une formation axée sur les enjeux liés à la crypto-monnaie et aux échanges chiffrés dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO, cet atelier visait à renforcer les capacités des magistrats dans les enquêtes sur les crimes internationaux et les réseaux terroristes actifs dans la province. Mais comment les groupes armés financent-ils leurs activités en Ituri et dans l'Est de la RDC, quels sont les obstacles à surmonter et les pistes de solutions? Les substituts du procureur général près la cour militaire de l'Ituri, Ataba Bahati, répond au micro d'Isaac Remoyope.
Le substitut du procureur général près la cour d'appel de l'Ituri, bonjour.
De manière brève, qu'est-ce que vous attendez par ces concepts de crypto-monnaie et échange?
La crypto-monnaie n'a rien d'autre que la monnaie virtuelle. C'est une monnaie qui n'est pas visible. C'est fait sur des plateformes généralement. Il est difficile de pouvoir tracer. Les criminels évitent les circuits officiels, les banques et autres passent par les plateformes pour financer leurs activités. Avec l'évolution actuelle de la technologie, les méthodes des criminels ont évolué. nous, en tant qu'acteurs de justice qui les poursuivons, nous devrions aussi mettre au point nos méthodes pour arriver à les traquer.
Pouvez-vous nous citer quelques cas concrets des crypto-monnaies et son lien avec le terrorisme dans le contexte de l'Ituri ou de l'Est de la RDC, une zone qui est confrontée aux groupes armés?
Et les cas sont les gens surtout dans la province de l'Ituri. Ces groupes armés utilisent chez nous ici. Ils sont la même mise sur des villes ou des cités où il y a les carrés miniers, où ils s'approvisionnent dans ces carrés miniers. Et avec ces produits-là, ils les vendent dans des circuits non formels. Vous êtes avec moi d'accord qu'il n'y a aucun comptoir d'achat d'or à Bounia. Dans ces circuits informels, que ces gens qui récupèrent les produits et en contrepartie, ils les envoient les armes, les vivres et les habits et autres choses dont ils ont besoin. Mais il n'y a pas seulement que les minéraux, il y a aussi ici chez nous les cacao. Vous connaissez des territoires comme Mambasa ou les...
Avec les ADF.
Avec les ADF. Et aussi, ces livres dans ces genres de pillage pour financer les activités. Il y a aussi les enlèvements, les kidnappings.
Moyennant des rançons.
Oui, ce sont aussi des moyens par lesquels ils kidnappent et ils exigent l'argent. Et cet argent-là finance leurs activités. Ce sont quelques cas que je peux citer, mais il y en a beaucoup.
Comment la crypto-monnaie constitue un nouveau défi dans le financement du terrorisme, comme l'a indiqué le thème que vous avez débattu?
Le défi pour la crypto-monnaie chez nous, c'est d'abord l'absence chez nous des bases de données. Vous savez, nous, en tant que magistrats et ministères publics, des personnes ont fait des transactions, se sont fait transférer la monnaie électronique. Nous devons chercher ces personnes-là. Nous avons, par exemple, nous avons le numéro de téléphone qui a fait la transaction. MPSA, Orange Money, nous avons ça, ministère public. Premier défi auquel nous nous retrouvons est que la réponse de l'opérateur, il vous dit que la SIM n'est pas enregistrée. Donc, la présence des shops ici qui vendent des SIM de n'importe quelle manière favorise un peu ces opérations-là et rend difficile la tâche de nous, les magistrats, pour traquer que ces gens-là, puisqu'ils deviennent intraçables. Les criminels savent que beaucoup de nos SIM ne sont pas enregistrés, donc ils achètent ça. Maintenant, là, il fait ce qu'il fait là-bas et après l'opération, il jette. Un autre défi, c'est par exemple le manque de machines. Il faut des machines pour arriver à cela, à retracer, aller vers les serveurs vous donnent les informations, remonter jusqu'à la personne qui a fait la transaction. Il faut des machines. Un grand défi aujourd'hui, l'absence des machines.
Comment cette formation assurée par la MONUSCO peut rendre la justice efficace afin de combattre ces financements des terroristes?
Par cette formation, nous venons d'être outillés par la détection de ces menaces-là d'abord. Comment nous pouvons déchiffrer? Puisque ces gens-là, lorsqu'ils envoient des messages entre eux, c'est en termes chiffrés, c'est dans des codes. Mais par cette formation, nous avons appris à décoder certains messages et à découvrir les mots de passe et l'auteur via sa signature et les confronter aux éléments que nous avons ici et il ne peut plus nier que ce n'est pas lui puisque nous avons sa signature. Donc nous avons appris toutes ces techniques-là. Lorsque nous tombons maintenant sur ces SIM qui sont enregistrés, aujourd'hui là, nous sommes capables, nous sommes en mesure de traquer et de mettre la main sur cette personne-là.
Vous pouvez affirmer que grâce à cette formation aujourd'hui, vous pouvez vraiment lutter efficacement contre le terrorisme mais également contribuer à restaurer l'autorité de l'État.
Oui, cette formation est vraiment un souffle nouveau pour nous dans la lutte contre la criminalité organisée, surtout en matière de cybercriminalité. Et nous sommes en mesure aujourd'hui de mener les actions contre ces réseaux-là et d'aller jusqu'au bout.
Et quelle peut être la contribution de la population? Parce que généralement, ces criminalités sont commises aussi avec la complicité de la population.
Ces criminels-là profitent de la vulnérabilité de notre population, évidemment, pour pouvoir collaborer avec eux, et ce sont eux maintenant qui les cachent, ce sont eux qui les facilitent, évidemment, certaines transactions. La population doit avoir confiance en nous et dénoncer tout mouvement suspect dans ces domaines-là. Il faut qu'ils évitent nos frères, parce que chaque fois que nous allons tomber sur eux, ils auront l'épée de Damoclès sur leur tête.
Monsieur le substitut du procureur, nous vous remercions.
À moi de vous remercier aussi.
C'était Ataba Bahati, substitut du procureur général. Après la cour militaire de l'Ituri, il répondait aux questions d'Isaac Remoyope sur le mécanisme de financement des groupes armés dans l'est de la RDC, le défi que pose la lutte contre le terrorisme à l'ère de crypto-monnaies et des échanges chiffrés. Et voilà, ainsi s'achève cette édition de votre journal. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps et votre attention tout au long de cette session d'information. N'oubliez pas que l'information continue et que nous serons ravis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez connectés. À très bientôt.